Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Avant de commencer, il faut que je vous affranchisse sur la dynastie des Kim. Cette lignée de dictateurs fous qui dirige la Corée du Nord depuis 1948. Le premier, celui qui a inventé la folie, c'est Kim Il-sung. Il a régné de 1948, la fondation du pays, jusqu'en 1994, date de sa mort. Le gars qui nous intéresse, c'est son fils, Kim Jong-il, qui prendra le relais de 1994 à 2011. Mais au moment de notre histoire, il est encore le fils du patron. Et quand lui-même mourra en 2011, c'est son fils qui lui succédera, l'actuel dictateur Kim Jong-un. C'est bon ? Vous vous situez dans la famille Kim ? Alors voici l'histoire. Accrochez-vous, c'est du lourd. Le 14 janvier 1978, une star du cinéma sud-coréen, Choi Eun-hee, débarque à l'aéroport de Hong Kong. Elle a rendez-vous avec un producteur de cinéma qui veut lui confier la réalisation d'un film. Pour tout vous dire, la proposition l'a un peu surprise. Elle n'a jamais réalisé de film, jamais. Elle est comédienne. À 51 ans, elle est toujours une vedette. Son ex-mari est réalisateur de films, Shin Sang-wook. Une star lui aussi en Corée du Sud. Mais elle, réaliser un film, elle n'y avait jamais songé. Cela dit, c'est une belle proposition. Elle a des problèmes d'argent. Et la voilà donc à Hong Kong, où l'attend une femme, une certaine Lee, qui est venue avec sa fille de 12 ans qui, d'entrée, joue les groupies, tendance lèche-cul. « Oh madame, nous sommes vos fans, on vous adore ma fille et moi !» La suite est digne des grands films d'espionnage. La dénommée Lee dit à Che.
« On va faire un crochet par Repulse Bay. C'est une plage qui est pas loin. » J'ai une connaissance à vous présenter, un homme féru de culture. Vous allez très bien vous entendre.
Jay ne se méfie pas. Quand elles arrivent à Repulse Bay, Lee lui dit
« Il va nous rejoindre ici. Il ne va pas tarder. »
Et une minute plus tard, des hommes coiffés de perruques lui sautent dessus et la jettent dans un bateau. Et elle se débat et elle crie et ça ne sert à rien. Elle est prisonnière. Et prisonnière de qui ? Sur les bateaux, l'un des hommes retire sa perruque et lui dit
« Madame Che, nous allons au pays du grand leader, le camarade Kim Il-sung. »
Il va falloir 8 jours de mer pour arriver en Corée du Nord, à Nampo. Et vous savez qui attend Madame Che quand elle arrive à Nampo ? Un petit bonhomme, dans un épais manteau de laine, qui trépigne sur le quai. Kim Jong-il en personne, le fils du dictateur Kim Il-sung, il est venu chercher son nouveau jouet. Imaginez la tête de Madame Che quand elle le reconnaît, parce qu'elle le reconnaît bien sûr. Et quand il l'a fait monter dans sa grosse limousine noire, où l'attendent par ailleurs ses rejetons. Elle se dit, Kim Jong-il ?
Mais pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Mais c'est un cauchemar !
Elle sait à qui elle a affaire. Elle parle la même langue et elle est star juste de l'autre côté de la frontière. Pensez si elle connaît Kim Jong-il. La limousine traverse Pyongyang en pleine nuit. Pas une lumière allumée, pas un lampadaire. La nuit noire, au beau milieu d'une capitale. Et la voiture arrive devant une belle villa. Enfin belle, n'exagérons rien, clinquante, disons. Avec des lustres dans toutes les pièces, et des bibelots japonais de mauvais goût un peu partout, et des meubles tarabiscotés façon chantilly. La classe à Pyongyang. Et voilà Madame Che qui descend de la limousine et qui se trouve face à une gouvernante.
Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce que je fais ici ?
Je craignais d'être offerte en cadeau à Kim Il-sung et Kim Jong-il. J'ai allumé toutes les lumières et fermé toutes les portes.
Les jours qui suivent sont assez désarçonnants. Che est traitée comme une reine. Comme une reine. L'autre lui envoie des cadeaux, des crèmes de beauté. Et le soir, il l'invite à ses soirées privées. Et vas-y que ça picole, que ça chante, que ça fume, que ça boit et que ça danse sur des tubes sud-coréens. Alors que la musique sud-coréenne, en principe, est interdite en Corée du Nord. En général, Kim Il-sung, le fils à papa, finit la soirée complètement bourré. Ça, c'est la partie sympa du programme de Madame Che. Mais quand la fête est finie, changement de décor. Pendant des heures, elle est soumise à un lavage de cerveau. On a décidé de la convertir aux idéaux de la dictature.
On m'a porté des livres communistes et je devais les lire. Ils ont essayé de me faire un lavage de cerveau avec Kim Il-sung et son idéologie révolutionnaire. Ils voulaient changer ma façon de penser.
Ça serait donc ça, le but de cet enlèvement ? La convertir, elle, la star sud-coréenne, la rallier à la cause, utiliser sa célébrité au service du dictateur ? En tout cas, les mois passent et Madame Che s'enfonce lentement dans la dépression. Kim Jong-il tente de la rassurer.
Je comprends votre inquiétude, mais j'ai des projets pour vous. Soyez patiente, votre problème sera bientôt résolu.
Et quel est donc le projet de Kim Jong-il ? Il veut enrôler au profit de la Corée du Nord le duo star du cinéma sud-coréen. Che Eun-hye et son mari, son ex-mari, le réalisateur Shin Sang-ok. Eh oui, lui aussi s'est fait enlever. Lui aussi est dans une villa à quelques kilomètres à peine de son ex-femme. Il a été enlevé 6 mois après elle. Tant qu'à faire, Kim Il-sung s'est offert la paire. Et lui aussi, pour l'instant, il est traité comme un seigneur. Cerné de garde, certes, pour ne pas qu'il s'échappe, mais il a tout le confort. Et bien sûr, il a droit aussi à des séances de rééducation politique. Il doit apprendre en long, en large et en travers la vie du grand leader Kim Il-sung. En revanche, il n'a aucun contact avec le fiston Kim Jong-il. Je vous l'ai dit, le grand projet de Kim Jong-il est de les rassembler bientôt dans un film. Mais il n'en aura pas le loisir. Car à la fin de l'année 1978, Shin n'a qu'une idée. S'échapper. Et un soir de décembre, il attend que ses gardes chiourme se couchent. Le chauffeur est en train de jouer aux cartes avec les domestiques dans la cuisine. Il se faufile à l'extérieur. Il saute dans une voiture. Il desserre le frein à main. Et se laisse couler dans l'allée sans bruit. Et là, il roule pied au plancher pendant des kilomètres et il s'arrête au bord d'une voie ferrée et il saute dans un train en marche.
Il a sauté sur un train de marchandises, mais sans savoir où il allait, en Chine ou à Pyongyang. C'était un mauvais plan. Le train ne faisait que tourner en rond.
Mais au bout, Chine est arrêté. Et envoyé en camp de détention, ça n'est pas demain que Kim Jong-il va reconstituer le duo star du cinéma sud-coréen. La star se retrouve à croupir au fond d'une cellule infâme, mais il survit. Et au bout de 3 mois, il est libéré. Et c'est reparti pour le bourrage de crâne. Shin doit lire les 3 tomes de la lutte anti-japonaise de Kim Il-sung. Passionnant. Mais en juillet 1979, il fait une nouvelle tentative d'évasion et le revoilà dans un camp de rééducation, cette fois-ci. Cellule encore plus crasseuse, odeur pestilentielle, des cafards partout, 16 heures par jour, il doit rester assis, en tailleur, immobile, même quand ça le gratte, et il est dévoré par les poux. Immobile, on a dit. Il a compris. Il écrit des lettres enflammées à Kim Jong-il. Il le fait reluire comme pas deux. Et il le fait rêver. Il a des projets pour le cinéma nord-coréen. Il tente de sauver sa peau, quoi.
Il a prétendu être un adepte de l'idéologie. Dans cet esprit, il a commencé à écrire des lettres proclamant sa loyauté à Kim Jong-il. Si vous me relâchez, je ferai de grands films pour la Corée du Nord. Il a noté beaucoup d'idées de films et les a envoyées.
Et il va attendre la réponse de King pendant, tenez-vous bien, 2 ans et demi. Et Che, qu'est-ce qu'elle devient pendant ce temps-là? Eh bien, elle est toujours dans sa villa, elle est toujours traitée comme une princesse et elle endure toujours des heures de lavage de cerveau. Moralement, en vérité, elle est au fond du trou. Et ça dure donc depuis 3 ans. Le 23 février 1983, 4 ans et demi après son enlèvement, Shin est convoqué au parloir de sa prison. Il y trouve un fonctionnaire en tunique Mao avec un petit attaché case à la main qui sort une lettre et qui la lit. « Camarade, bien que vous ayez commis une faute grave, nous avons décidé de vous accorder une seconde chance. En conséquence, vous devrez désormais consacrer votre vie au grand leader et contribuer à l'accomplissement de l'œuvre révolutionnaire. » La lettre est signée Kim Jong-il. Il est libre et une Mercedes l'attend à la sortie pour le conduire vers sa nouvelle résidence, ultra surveillée. Et 10 jours plus tard, le 6 mars 1985, Shin est invité à son premier gala. Lui qui vient de passer 3 ans dans une cellule crasseuse, il y arrive en Mercedes avec chauffeur et quand il en descend, 2 valets s'inclinent sur son passage. Et il déclenche un tonnerre d'applaudissements. Il n'en revient pas. Il y a 10 jours, il était un bagnard et le revoit la star. Et qui est là, au milieu des convives? Kim Jong-il, bien sûr. Les yeux brillants d'alcool, avec un costume façon pyjama. Mais surtout, qui est là, juste à côté de lui? Shin aperçoit pour la première fois Che, son ex-femme. Elle est là, dans une robe traditionnelle blanche, avec d'énormes lunettes de soleil à verre fumé. Et elle le voit aussi. Elle a un peu de mal à le reconnaître, il a tellement maigri. Mais c'est lui! Il fait un pas vers elle, elle fait un pas vers lui. Et ils se jettent dans les bras l'un de l'autre. 5 ans qu'ils ne se sont pas vus. Et la grande nouvelle, c'est que désormais, ils vont vivre ensemble, dans la même villa. Après le gala, dès qu'ils arrivent dans cette nouvelle maison, Shin prend Che par la main et il l'emmène dans la salle de bain. Et il ouvre en grand les robinets d'eau pour brouiller les voix au cas où il y aurait des micros. Et il dit à son ex, « Ils t'ont pas retourné le cerveau au moins. T'avais l'air si à l'aise avec eux. » Monsieur le cinéaste ne sait-il plus reconnaître une actrice en pleine représentation? Et ils éclatent de rire. À partir de ce moment-là, ils ne vont plus penser qu'à une seule chose, s'enfuir. Et d'ailleurs, pour l'instant, ils n'ont rien d'autre à faire.
Le plan pour Kim Jong-il, c'était de les mettre dans le luxe, de leur donner tout ce qu'ils voulaient et de leur donner des instructeurs de propagande idéologique pour leur apprendre comment penser comme de bons socialistes. C'était ça l'expression. Et dès qu'il aurait su qu'ils étaient loyaux, il allait les mettre au travail pour faire des films pour lui.
De temps en temps, Kim Jong-il les invite à dîner pour parler cinéma. Il est fan de James Bond et de Rambo et il adore Elizabeth Taylor. Et un jour, Shin et Che décident de l'enregistrer à son insu avec un petit magnétophone, au cas où, pour qu'on les croie si un jour ils arrivent à s'évader et qu'ils racontent leur histoire. Et voici un extrait de cet enregistrement, la voix de Kim Jong-il à table. À l'automne 1985, Kim Jong-il leur propose de créer leur propre société de production. Il met à leur disposition une enveloppe annuelle de 2 millions de dollars et il leur promet que pour tourner leur film, ils vont pouvoir voyager dans le monde entier. voyager. Ouh, ça suffit à les motiver, ça. Voyager dans leur tête, ça veut dire s'évader. Alors ils foncent. Leur société de production s'appellera Shin Film. Et ils demandent des passeports qu'on leur donne. Bon, évidemment, ils ne vont pas tout droit aux États-Unis ou en Europe. Ils décollent pour les pays de l'Est. Hongrie, Allemagne de l'Est, République tchèque. Et à chaque fois, ils tournent une scène de leur film qui s'appellera Mission sans retour. C'est leur grand retour parmi les vivants. Tout le monde les pensait morts. Et non seulement ils sont vivants, mais en plus, ils se sont remariés. Décision de Kim Jong-il. Il n'aura pas demandé leur avis. Quand il apprend la nouvelle à Séoul, en Corée du Sud, leur fils n'en revient pas.
Il me semblait peu probable qu'ils reviennent. S'ils faisaient l'éloge de la Corée du Nord, la Corée du Sud les considérerait comme des traîtres. J'étais soulagé qu'ils soient en vie, mais je ne pensais pas les revoir un jour.
Évidemment, pendant ces tournages, Shin et Che sont surveillés 24/24. Impossible de se faire la malle. Et comme en plus, ils sont dans des pays communistes, bien raides. Il n'y a pas d'ambassade américaine où ils pourraient se réfugier. Et les voilà donc de retour à Pyongyang pour monter leur film. Et quand il est fini, c'est bien sûr Kim Jong-il qui le visionne le premier. Il est enchanté. C'est formidable! On croirait un film européen! Kim est tellement emballé qu'il décide d'envoyer le film au festival de Karlovy Vary en République tchèque, où il décroche le prix du meilleur réalisateur. Kim Jong-il est aux anges. Et le soir même, il appelle Che, qui est à Prague avec Chin, pour leur annoncer une grande nouvelle.
Je suis très heureux, hein. Notre pays n'avait jamais remporté une distinction aussi prestigieuse. Il faut montrer au monde entier de quoi nous sommes capables. Alors nous allons installer une succursale de Shin Film à Vienne. Vous entendez, à Vienne. Ce sera la branche européenne de votre société de production.
Hé hé, Vienne. Vienne, c'est en Autriche. L'Autriche, ça n'est pas un pays communiste. À Vienne, il y a une ambassade américaine. Ça se présente bien, tout ça. Sauf qu'évidemment, ça ne va pas se faire tout de suite. Il faut tourner. Et tourner encore.
J'ai travaillé comme assistante réalisatrice. Shin était le réalisateur et l'opérateur. En 2 ans et 3 mois, nous avons réalisé 17 films. Nous ne dormions que 2 ou 3 heures par nuit et travaillions le reste du temps.
Mais plus le temps passe, plus la surveillance se relâche autour d'eux. Et en mars 1986, 8 ans après leur enlèvement, ils sont en route pour Vienne, en Autriche, où ils vont installer leur succursale. Ce qu'ils n'ont aucune intention de faire, rassurez-vous, ils n'ont qu'une idée. S'enfuir. Arrivés à Vienne, ils ont rendez-vous avec un journaliste japonais pour une interview. Et là, Shin décide d'embrouiller les Cerbères, qui les surveillent 24/24. Essayez d'être discret. Essayez de ne pas trop nous coller, vous voyez. Les Japonais ne vont pas comprendre. S'ils vous voient derrière nous, ils vont se demander si vous n'êtes pas là pour nous empêcher de fuir. Bien joué, Mr. Chin. Le rendez-vous a lieu le lendemain, devant leur hôtel, l'Intercontinental. Le journaliste japonais arrive vers 12h30 en taxi. Shin et Che attendent sur le trottoir. Comme prévu, les Cerbères sont un peu en retrait pour ne pas se faire remarquer. Et dès que la porte du taxi s'ouvre, les deux foncent à l'intérieur.
Conduisez-nous à l'ambassade américaine et vite !
Les gardes, bien sûr, se lancent à leur poursuite, mais c'est trop tard. Et quand ils arrivent devant l'ambassade, ils courent vers la guérite.
Je courais aussi vite que possible, mais j'avais l'impression d'être dans un film, au ralenti. J'ai pensé à ça, au ralenti.
Le planton de l'ambassade les fait entrer dans le hall. Ça y est, 8 ans après leur enlèvement, ils sont libres.
J'étais complètement épuisée. Mais nous étions enfin dans un monde libre. Je me suis effondrée. J'étais assise sur un canapé et le consul m'a apporté une rose, très pâle. Il m'a tendu la fleur et dit « Bienvenue à l'Ouest ».
Après ça, Shin et Che s'installent aux États-Unis. Che, qui a 60 ans, ne retournera plus jamais de film. Mais elle est toujours vivante aujourd'hui. Shin, lui, a poursuivi sa carrière de réalisateur jusqu'à sa mort en 2006.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.